Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, bienvenue dans nectar.ge.ch, l'émission consacrée au vin genevois avec Aristide et ses invités. Bonjour.
Bonjour. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir et l'honneur d'accueillir deux personnes de marque, à savoir Madame Esther Dos Santos Meyer et Monsieur Julien Morel, qui tous deux viennent nous parler du domaine du Crai à Jussy. Alors, l'un et l'autre sont dans un rôle spécifique. J'imagine que Madame Dos Santos Meyer sera un peu dans le rôle de l'historienne, parce qu'il y a une historicité tout à fait remarquable du domaine. Et puis, Monsieur Julien Morel, quant à lui, est l'œnologue du Château du Crai. Bon, moi, je pensais que le raisin avait qu'à pousser, que le soleil mûrissait les raisins. Et puis, mais non, dans l'aventure, il faut quand même un œnologue pour transformer le mou en excellent vin. D'où sa présence de technicien, donc. Alors, peut-être une fois, une petite piqûre de rappel pour bien dire que nos émissions se veulent à chaque fois différentes l'une de l'autre et qu'à chaque fois, nous choisissons un thème tout à fait précis. Il s'agit de nous instruire sur le vignoble et les vins genevois. Dans l'émission numéro 10, nous avions parlé des foires aux vins, qui peuvent susciter quelques méfiances, du moins faut-il essayer d'y voir clair. Dans l'émission 7, nous avons parlé du bio avec Sarah Mellan. Ensuite, dans l'émission 8, nous avons évoqué ces cépages résistants aux maladies, qui nécessitent donc extrêmement peu de traitements. Émission numéro 9, nous avons parlé des concours, dont certains sont fiables, d'autres peut-être un tout petit peu moins. Et puis, pour aujourd'hui, 10e émission, nous avons un thème. C'est le thème du pressurage. Alors, c'est un thème que Monsieur Julien Morel m'a proposé. Et au moment où il me l'a proposé, je me suis dit, oh bon, ben ça c'est pas très sexy. Puis ensuite, on a échangé. Et puis, je me suis dit, ah ben non, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait passionnant. Et si passionnant même, que je me suis rendu samedi dernier au château de Jussy pour assister à la grande fête cave ouverte qui précède Noël. Et puis, j'ai goûté les vins en essayant d'y trouver une illustration du propos de Monsieur Morel. Et l'illustration, pour moi, était tout à fait spectaculaire. Voilà. Aujourd'hui, donc, 10e émission. Alors, juste avant que l'on entre dans le vif du sujet, je vous raconte une petite histoire que je tiens d'un médecin de ma parenté, que j'ai rencontré le même jour, d'ailleurs, avant de monter à Jussy, qui me dit... Est-ce que tu sais pourquoi les troupes napoléoniennes, ici on est napoléonien quand même un tout petit peu, ont vaincu tous les alliés européens qui étaient contre eux? Eh bien, c'est parce que les troupes napoléoniennes, qui étaient dans la culture française, jusqu'au bout des ongles, faisaient leur guerre avec des tonneaux de vin aussi, qui à l'arrière, et les soldats français buvaient beaucoup de vin. Tandis que les autres, les Russes, les Polonais, les Autrichiens, les Hongrois, etc., ils n'en avaient pas. Donc, ils ont attrapé des maladies gastro-intestinales, gastriques, etc., ce qui fait qu'ils étaient faibles au combat. Donc, voilà, nous plaidons toujours pour la modération, mais il est exact que le vin a un pouvoir désinfectant absolument indéniable. Alors nous en venons au château du Crai, nous allons donner la parole à Madame Esther Dos Santos Meyer qui va nous parler de, enfin nous faire peut-être une petite chronique de l'histoire de ce domaine qui est extrêmement célèbre. Je connais un tout petit peu le personnage d'Agrippa d'Aubigné. Bon, il y a le château lui-même, il y a toute l'histoire du domaine. Que pouvez-vous nous raconter pour augmenter notre culture et notre érudition?
Alors d'abord, le domaine Château du Crai est situé aux confins de la campagne genevoise, sur la commune de Jussy, qui a été marquée par le Château du Crai et les autres châteaux. Ça se voit par le drapeau de Jussy, qui est, on pourrait penser à du blé ou à, finalement à, aux paysans, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture à Jussy, mais non, le drapeau est constitué de trois châteaux. Les trois châteaux étaient finalement très célèbres et la seigneurie y vivait, surtout le week-end.
Quelle seigneurie au juste? Parce alors, que donc c'était pas des Genevois.
Il y avait les Compès, la famille des Revoré, Bolognais, Jacques de Savoie et Louis Franc, pour en citer quelques-uns. Et puis, donc le château, il a été construit au XIIIe siècle, et après démantelé en 1590, parce que justement, Genève avait peur du complot savoyard, donc ils ont détruit le château pour éviter finalement qu'une garnison s'installe aux portes de Genève.
Voilà, donc j'allais vous poser la question, donc c'était les seigneuries qui avaient maille à partir, qui avaient un lien avec ceux qui ont eu le toupet d'attaquer Genève.
Exactement.
Voilà, donc destruction. Et reconstruction.
Voilà, c'est en 1624 qu'arriva Agrippa d'Aubigné, que vous avez cité tout à l'heure, donc célèbre écrivain condamné à mort en France, calviniste chauvrenet, qui est venu finalement à Genève pour se réfugier. Il a été condamné à mort et a fait du Cray. Il a finalement reconstruit le Cray. Il a passé plutôt aussi de nouveau ses week-ends. Donc il a repris les plans de base et a reconstruit le château avec les ruines finalement de l'époque. Il n'y a pas vécu très longtemps, vu qu'en 1637, il est décédé et le château a été revendu à la famille Micheli du Cray, qui est maintenant aujourd'hui propriétaire depuis plus de 380 ans. En 1995, la fondation Micheli a été créée pour préserver le patrimoine. Et puis, la famille Micheli a aussi beaucoup marqué donc, la politique jusserande, vu que plusieurs Micheli ont siégé en tant que maire à la commune de Jussy.
Il y a beaucoup de châteaux qui tiennent lieu en même temps de musées parce que tous les vestiges d'époque sont intéressants à visiter. Est-ce qu'on peut visiter le château ?
Non, malheureusement, le château est une demeure privée où y réside encore une des familles Micheli.
Et alors, à côté de ça, le vin. Donc, le vin est fait. Donc, il y a un vignoble qui doit être assez ancien et qui a été fait, il a peut-être été créé il y a 3 siècles, 5 siècles.
Il paraît que déjà au 14e siècle, il y avait déjà du vin. Donc après, on n'a pas de traces très récentes. Nous, ce qu'on peut raconter sur le domaine Château du Cray, c'est qu'on fait du vin au domaine depuis 1994. Avant, on livrait nos raisins à la souche, qui était finalement la coopérative qui existait avant la cave de Genève actuelle.
Donc, qui faisait partie de Vin Union, en somme. C'était la région Arvelac, mais pour le compte de Vin Union.
J'étais un peu jeune à cette époque, mais ça doit être ça, oui.
Oui, c'est mon souvenir, la souche à la Palanterie.
Exactement.
C'est ça. Dites-moi juste, Agrippa d'Aubigné, c'est un sacré bagarreur, non ?
Tout à fait. On s'est d'ailleurs inspiré d'Agrippa d'Aubigné pour créer une cuvée spéciale, la cuvée Létragique, un nom un petit peu farfelu pour du vin, mais finalement qui rappelle un écrit qu'Agrippa d'Aubigné a écrit sur la guerre des religions il y a 400 ans. Et on a pris finalement ce thème en 2016, c'est une cuvée de 2016, pour illustrer finalement que 400 ans plus tard, on est toujours au même point avec ce problème de guerre de religion. Et puis on voulait faire un petit clin d'œil à l'histoire, donc en lançant cette cuvée spéciale qui est un peu à l'image d'Agrippa d'Aubigné, très, on va dire, robuste, avec une étiquette en étain qui représente bien le guerrier qu'il était.
Alors maintenant, le domaine du Cray est connu principalement pour ses vins. En réalité, il y a toute une campagne. Hein. Je constate qu'il y a autour du château d'immenses dépendances et qu'on doit produire du blé, quantité d'autres choses.
Tout à fait. Donc on est une exploitation dite mixte, c'est-à-dire qu'on produit et du vin et on a des grandes cultures, donc on produit beaucoup de céréales, du blé, du colza, de la betterave aussi, n'oublions pas qu'on a besoin de sucre suisse. Et puis on fait aussi beaucoup d'activités annexes finalement, des travaux pour tiers, pour nos collègues.
Des animaux ?
On a aussi des animaux, on a un engraissement de cochons qui sont très souvent célèbres sur les cartes des restaurants. On peut souvent lire le cochon de Jussy, donc c'est le cochon du château du Cray.
Attention, nous allons tout de suite marquer une pause musicale dans nectar.jeu.ch. À tout de suite.
Radio Cité Genève.
Yo ya no aguanto esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses. Difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duerme y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte aquí a mi lado. Sé que no te fui buen hombre.
porque ya no respondes a mis mensajes ni a mis llamadas. No puedo decir que estás equivocada. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimientos, pero seguro que él no te ama como yo. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimientos, pero seguro que él no te ama como yo. Yo ya no aguanto esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses, difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duerme. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tener acá a mi lado. Sé que en mí piensas y que me extrañas cuando a su lado despiertas. Sé que es mi culpa, aunque todo te daba. No puedo decir que estás equivocada. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimiento, pero seguro que él no te ama como yo. Esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses, difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duermes. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte aquí a mi lado.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour dans nectar.ge.ch avec Esther Dos Santos Meyer et Julien Morel pour parler du domaine du Château du Cré.
Alors maintenant, nous allons nous intéresser particulièrement au vin, celui qu'élève, que vinifie Monsieur Morel. Pour présenter le personnage, j'aimerais simplement indiquer qu'il a été formé à très très bonne école, parce que il m'a indiqué que sa formation a été acquise dans la région bordelaise, à Pessac-Léognan. Donc c'est des noms qui chantent, évidemment. On pense à Aubryon, à Pape Clément, etc. Donc, quelques mots peut-être sur votre formation en terre bordelaise.
Oui, alors avant Bordeaux, j'ai commencé par la Bourgogne. J'ai fait 6 ans d'études en Bourgogne et puis je voulais découvrir autre chose. Du coup, je suis parti sur Bordeaux. Donc à Bordeaux, j'ai passé mon diplôme d'œnologue j'ai trouvé du travail donc sur la région des Graves, donc pas loin de Pessac-Léognan. Où j'ai travaillé 6 ans pour une propriété là-bas, une très grande propriété. Voilà, où j'ai fait.
Il y a une université du vin à Bordeaux qui est célèbre. Vous l'avez fréquentée ?
Oui, c'est ça, c'est celle-ci, oui. La faculté d'œnologie de Bordeaux. Oui.
Avec quelques professeurs célèbres, des stars.
Denis Dubourdieu notamment, malheureusement qui est décédé il y a quelques années de ça, mais une star pour les Sauvignon Blanc. Oui.
Voilà. Donc, vinifier à Genève et vinifier à Bordeaux, est-ce que c'est exactement le même métier ?
Je pense pas que ce soit le même métier. On a des cépages à Genève qui sont très différents, une multitude de cépages, contrairement à Bordeaux. Du coup, ça complexifie un petit peu les choses, mais c'est ce qui est très enrichissant. voilà, c'est chaque cépage demande d'être travaillé différemment, et c'est cette complexité qui rend les choses beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intéressantes pour moi.
Voilà, je vous entends bien. Vous dites que les cépages sont différents, mais maintenant Genève a des cabernets, cabernet franc, oui, cabernet sauvignon, merlot, et puis dans les blancs du sauvignon.
Oui.
Est-ce que vous vinifieriez votre sauvignon, votre cabernet sauvignon, différemment à Genève ou à Bordeaux?
Ouais, ça se rapproche, mais voilà, il y a des maturités qui sont un petit peu différentes. Il faut, voilà, ça demande peut-être un peu plus de réflexion des fois.
Voilà. Et puis le terroir genevois est différent et peut-être, oui, suggère des vins, je sais pas, par exemple plus légers.
Oui, peut-être plus léger, peut-être plus accessible, plus facile à boire, on va dire ça comme ça.
D'accord, bah ça c'est une bonne chose. Alors nous en venons au pressurage, qui, moi jusque-là je pensais que pour le pressurage, on amenait le raisin au domaine, à la cave, comme ça, on mettait le raisin dans un pressoir et qu'on appuyait sur un bouton, c'est pas ça?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors après, moi, ce que j'aime bien dire, une phrase que j'aime bien dire, c'est qui reprend un peu ce que vous pensiez, c'est que c'est facile de faire du vin, mais c'est difficile de faire du bon vin. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça se joue beaucoup sur les détails. Et voilà, le pressurage, c'est une opération où il y a beaucoup de détails qu'il faut pas négliger si on veut une bonne qualité.
Mais alors, bon, les détails, très bien, mais c'est que vous avez un objectif. Pour quelle raison, au juste, accordez-vous une attention aussi privilégiée au pressurage?
Alors, on accorde surtout une attention pour les blancs, parce que voilà, un raisin se décompose en trois parties, grossièrement. On a les pépins, la pulpe et la pellicule. Et les pépins, eux, vont apporter un petit peu de structure, de tanin, pas forcément ce qu'on recherche sur les blancs. La pulpe, elle, est composée essentiellement du jus, du sucre et de l'acide. Et la pellicule, on va dire, c'est la partie la plus intéressante, puisqu'elle contient les arômes pour les blancs. Et pour les rouges, la couleur, les tanins, tout ce qui comporte la structure du vin.
Alors concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez pour extraire de la pellicule toutes les richesses qui vont faire du vin un produit qui n'est pas simplement une boisson de soif, mais une espèce d'œuvre d'art?
Alors, mais pour les rouges, on va les faire macérer, donc on va pas les mettre tout de suite au pressoir. Donc c'est vraiment la macération en cuve qui va être important. Mais le pressurage, c'est quelque chose qui est primordial sur les blancs. On n'a pas d'autre extraction pour les blancs. C'est au moment du pressurage que tout va se passer. Surtout pour les cépages aromatiques, tels que le sauvignon, comme on parlait jusqu'à maintenant. Donc le raisin, on le met au pressoir. On peut faire une macération pelliculaire donc sur ces cépages aromatiques. Donc on appelle macération pelliculaire le fait de laisser macérer quelques heures, vraiment pas longtemps, dans le pressoir, pour que les arômes se diffusent dans la pulpe, là où il y a le jus.
Donc c'est une question de durée en somme,
oui,
ou de lenteur peut-être, de ne pas faire les choses trop brutalement,
voilà,
mais de laisser au jus le temps de prendre la substance précieuse.
Oui, alors l'élaboration des vins, c'est beaucoup de patience, donc voilà, il faut prendre le temps que ce transfert se passe. Et ensuite, lorsqu'on va lancer le cycle de pressurage, donc lorsqu'on va appuyer sur le bouton, il y a un suivi qui est important pour extraire les meilleurs jus, parce que là encore, il y a un suivi qui doit être important.
Donc pour chaque pressé, les choses se présentent un peu différemment?
Oui, oui, oui. Suivant les cépages, des cépages aromatiques ou non, des cépages plus ou moins mûrs également, tout ça va nous faire réfléchir sur comment on va presser notre raisin.
D'accord. Y a une question que je me pose. Est-ce que la température du raisin, la température du mou, joue un rôle important pour la finesse du vin que vous voulez produire?
Oui, alors la température a une influence surtout sur l'oxydation. plus on aura un raisin chaud, plus on va accélérer les phénomènes d'oxydation. Donc les arômes, la couleur, tout ça s'oxyde très vite si on a des températures un peu élevées. Donc c'est pour ça, souvent quand on ramasse le blanc, on essaye de le faire le matin ou très tôt le matin, même voire la nuit, pour avoir une vendange très fraîche, au maximum de fraîche.
Ouais. La nuit, on manque des grappes. J'ai vendangé quelques fois et des fois on laisse des grappes parce qu'il y en a qui sont bien cachées. Donc la nuit, je sais pas. Si...
Alors après voilà, aujourd'hui il y a les machines à vendanger, et, ça nous apporte beaucoup de flexibilité. On fait une partie du domaine avec la machine à vendanger, donc ça nous permet de ramasser la nuit sans problème.
Il y a certains vignerons qui mettent sur leur étiquette vendanger à la main. Est-ce que vous considérez que c'est réellement mieux ou bien que la machine fait somme toute du bon travail, mais on n'aime pas le dire parce que la mécanisation, elle semble aller un peu à l'encontre d'un sain artisanat?
Oui, alors ça, c'est un autre débat, mais moi je pense que les machines aujourd'hui ont beaucoup évolué. Il y a énormément de tri qui est embarqué sur une machine à vendanger et on peut... toutes les feuilles, tout ce qui est exogène au raisin, même le pourri, les grains verts, tout ça peut être sorti de la machine, par la machine à vendanger. Donc à la réception de la vendange, on a vraiment des billes impeccables. Donc parfois, de mon point de vue, la machine à vendanger aujourd'hui fait du très bon travail.
Voilà, donc il faut le dire tout doucement, la machine procède déjà à un certain tri.
Oui.
Nectar.ge.ch sur Radio Cité Genève, nous allons marquer une pause et revenir très vite pour continuer de parler du pressage.
Radio Cité Genève.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town. While Luzar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale. I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour dans nectar.jeu.ch avec Esther Dos Santos Meyer et Julien Morel pour parler du domaine du Château du Crêt.
Voilà, donc quand je suis passé à Jussy l'autre jour, je me suis efforcé de définir votre style. Donc autrefois, on considérait les vins genevois comme des petits jus clairs, acides. On a entendu des plaisanteries récurrentes qui sévissent toujours. Et je me suis dit que votre quête, c'était de faire des vins d'une certaine ampleur, même des blancs d'une certaine richesse et épaisseur. Est-ce que c'est ça votre idéal ?
Oui, alors aujourd'hui, je dirais en plus, les vins, il faut qu'ils soient accessible. Du coup, on essaye quand même d'apporter pas mal de volume, la sucrosité. Nous, on appelle ça la sucrosité. Donc, c'est la sensation sucrée, mais sans sucre. Nos vins sont secs. Voilà, pour avoir une certaine richesse.
Aromatique,
aromatique. Et puis on a aussi peut-être une façon de faire qui est un petit peu différente d'il y a quelques années, qui nous permet de pousser des maturités peut-être un peu plus loin, de gagner un petit peu en concentration, concentration aromatique, concentration en couleur, en tanin, et puis peut-être aussi le climat qui change, qui nous aide dans ce
D'accord.
cette démarche-là.
Si un client vous dit que vous faites un vin de soif, est-ce que vous piquez une colère ?
Non. C'est au contraire, je trouve ça. Je trouve ça que c'est plutôt bien.
Non, c'est une expression que j'aime pas. Moi, au château, je me suis rendu compte que on a toute une palette, tout un éventail de vins avec tous ces cépages genevois, des sauvignons, des chardonnays,
oui,
des chasselas, puis beaucoup, en fait, des pinots gris, des pinots blancs et tutti quanti. Donc maintenant, je trouve que vous avez en somme tout un éventail avec des goûts différents.
Oui, on a une gamme très variée.
Le client, en somme, peut trouver pour tous les mets. C'est un peu ça votre but ?
Oui, c'est un peu ça notre idée. Ouais.
Voilà.
Et puis, ouais, on a plein de cépages différents qui plaisent, qui peuvent plaire à plein de monde différent. Ouais.
Voilà, encore juste une chose, au château de Chouilly, vous avez quelques produits qui sont inédits. Est-ce que vous avez toujours le landau ?
Oui, on a toujours le landau, qui est un cépage un petit peu atypique, mais qui plaît très bien.
Voilà, qu'est-ce que c'est le landau ?
Le landau, c'est un hybride qui est originaire de l'Ain. C'est un cépage un peu robuste, un petit peu sauvage. C'est un cépage qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui au Québec parce qu'il est résistant à des températures très froides, jusqu'à moins 50 degrés, je crois. Voilà, nous, on essaye d'en faire un vin un petit peu comme un rosé, en fait. C'est un vin qui est très très fruité, très très rond. Souvent, on le propose l'été à la place d'un rouge un petit peu chaleureux. Voilà, il passe très bien, un petit peu frais.
Voilà. Est-ce que c'est un cépage qui a besoin d'homologuer ? Ou bien est-ce qu'il y a des cépages qui sont pirates ? Parce qu'on sait que dans beaucoup d'endroits, il y a des cépages qui sont reconnus, voire imposés.
Je pense pas que...
Est-ce que c'est vous qui choisissez les cépages ? Parce que, par exemple, vous pourriez avoir envie de mettre, je sais pas, Tempranillo pour voir ce que ça donne. C'est vous qui choisissez ?
Alors, c'est toute une réflexion avec l'équipe du domaine, oui.
Donc, c'est une équipe ?
Ah oui, oui.
Complètement, c'est une équipe.
Oui.
Avec plusieurs chefs ?
Non, je crois qu'il y a encore un chef.
Mais c'est vous, en quelque sorte, le directeur artistique. Je peux imaginer qu'il y a un directeur commercial dans l'équipe. C'est peut-être Madame Esther Dos Santos Meyer. Et puis, un directeur artistique.
Alors, moi, je compare souvent les œnologues à des artistes. Vous avez raison, parce que pour faire des bons vins, moi, j'estime qu'il faut avoir du talent. Et c'est pour ça que l'œnologue est artiste, mais il fait aussi une partie commerciale.
Ouais, je vais vous demander de commenter, pour terminer, une sentence que j'ai entendue de la bouche d'un vigneron qui disait, en somme, il y a beaucoup plus de mauvais vignerons que de mauvais terroirs.
Oui.
Je vous provoque.
Non, après, le métier de vigneron, c'est un métier qui est difficile parce qu'il faut être bon dans énormément de domaines. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il y a des œnologues. C'est parce que nous, on est un petit peu cantonnés à l'élaboration des vins. Mais le métier de vigneron, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il faut savoir travailler la vigne, il faut comprendre son terroir, il faut savoir faire le vin, il faut savoir le vendre. Et puis voilà, il y a aussi toute la partie administrative autour. Donc c'est un métier très, très compliqué, très dur. Donc voilà, pour être un bon vigneron, ça demande beaucoup d'efforts.
Très pointu.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça. Les gens, ils aiment bien célébrer les vignobles les plus connus. Donc on dit Bourgogne, Bordeaux, etc. Très bien. Mais à Genève, en somme, les œnologues sont aussi compétents qu'ailleurs.
Oui.
Si ce n'est plus.
Plus je sais pas, mais après voilà, moi je considère qu'il y a des bons vins partout, donc il doit y avoir des bons œnologues partout.
Voilà, donc le terroir genevois, pour vous, c'est un terroir qui doit, par vocation, donner des vins légers, ou bien cherchez-vous à les rendre plus trapus?
Non, pas légers, après... On essaye de donner le meilleur du terroir, donc on a aussi des vins trapus, on a des vins plus légers, mais on essaye d'aller au bout de ce qu'on peut donner, ouais.
Voilà, bien, nous terminons avec quelques citations, puisque le vin est un produit de culture et qu'il a inspiré beaucoup d'écrivains. Tiens, je pense par exemple maintenant à Rabelais. Alors, un sujet qui a inspiré beaucoup, c'est le vin et les femmes, ou les vins, le vin et l'amour. Et j'avoue avoir collecté à peu près 60 citations sur ce sujet. Alors je vous en donne quelques-unes, plusieurs sont tout à fait enchantées parmi ces citations, et puis d'autres sont clairement désabusées et grinçantes. Je vous en donne une qui est de Pierre de Ronsard, donc le poète, qui était très porté sur la gent féminine. Le cerveau n'est jamais si bien... Pardon, le cerveau n'est jamais bien sain que l'amour ou le vin n'abreuve. Donc, Ronsard, on peut le résumer, le vin, l'amour. Voilà, on est heureux comme ça, on a fait le tour du sujet, merci. Une autre citation, un tout petit peu désabusée, d'un journaliste qui a chevauché les deux siècles, le 19e et le 20e, du nom de Alfred Capus. Le second amour d'une femme ressemble au vin d'une bouteille mal rincée. Une autre citation de Byron, le poète, qui a été à Genève, qui est peut-être allé au château du Crêt, Jussy, qui est encore célébré dans la commune de Coligny. Prenons des femmes et du vin, gloussons et rigolons. Les sermons et l'eau plate, c'est pour demain. Bon, il faut savoir que Byron avait un genre de vie extrêmement libre et qu'il ne se laissait pas influencer par les moralisateurs. Alors voilà, c'est peut-être un art de vivre. Alors, merci à vous. Il est temps de remercier surtout Esther Dos Santos Meyer, qui est venue nous parler de l'histoire d'un domaine qui remonte à plusieurs siècles, et puis aussi Julien Morel, qui a expliqué que le pressurage est en somme, pour avoir un bon vin dans son verre, au final, un acte décisif. Merci à vous. À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Radio Cité Genève.